On a fait un document épiscopat, Église et sport, un terrain de rencontre que je vous montre là. J'espère que ça se voit un peu. C'est le plus gros document épiscopat qui ait jamais été fait. Ça fait plus de 200 pages et je vais vous dire d'où il vient. Et avant de rentrer dans le champ un peu plus précis de la conférence. Donc en fait, quand je suis arrivé à la conférence des évêques, on m'a assez vite demandé, Alain, qu'est-ce que tu vois comme sujet qui serait important à traiter. Donc c'est un peu ce qu'on appelle dans notre jargon d'église les signes des temps. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui qui fait que il faut absolument qu'on travaille et qu'on réfléchisse et qu'on agisse. Voilà. Et donc j'ai très vite mis la question du sport en avant, puisque dans le service famille et société, il y a cet aspect pastoral du tourisme, des loisirs et des sports. Je dois dire qu'au début, j'ai pas du tout été entendu. Le sport, ça paraissait quelque chose de complètement latéral. À la conférence des évêques, ils étaient beaucoup pris par les histoires de pédocriminalité, mais aussi par des choses traitées chez nous beaucoup, à savoir tout ce qui est écologie, Laudato si, et toutes ces questions-là, où on a poussé énormément de choses, la création d'églises vertes et des délégués diocésains à l'écologie. Un groupe de travail sur la culture du déchet qui est en train de produire un truc pour le Vatican, enfin, etc. De sorte que le sport s'était pas tellement entendu jusqu'au moment où on est allé travailler au Vatican. On a fait la tournée des dicastères, qui sont un peu les ministères, un peu si on va mettre des guillemets en disant ça, au niveau du Vatican. Et il y en a deux gros, un qui s'appelle le dicastère pour le service du développement humain intégral, où travaille beaucoup justice et paix et beaucoup d'autres choses. Et puis l'autre qui s'appelle famille et vie. Et donc là, c'est là qu'était hébergé, parce qu'il y a eu des réformes, le service des sports. Et là, le responsable de la section sport qui a été créée par Jean-Paul II nous est tombé dessus sur l'évêque qui coordonnait le groupe et puis moi en disant il faut absolument faire quelque chose, on n'a pas de vis-à-vis dans la conférence des évêques. Et donc quand nous sommes revenus, les évêques ont dit bah, il faut créer une coordination. Nous avons créé cette coordination Église et Sport. Et dans la foulée, s'est créé un groupe de travail des évêques de la région parisienne qui vont accueillir les Jeux Olympiques, hein, pour pas tout, mais le gros des manifestations. Et donc, ce groupe de travail a créé une entité qui s'appelle Holy Games. Donc, vous pouvez trouver plein de renseignements sur Internet. Il suffit de taper Holy Games. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui s'organisent. Voilà. Autour des Jeux Olympiques. Donc, ça, c'était pour dresser le cadre. J'ai pas du tout le profil sportif. J'ai fait du sport dans ma vie, mais je suis pas un très bon sportif. Et dans l'église, c'est souvent comme ça, il vous tombe des missions auxquelles vous ne vous attendez pas. Juste pour vous faire sourire, je me souviens d'un collègue qui est beaucoup plus âgé que moi et qui avait fait des études littéraires très approfondies. Et à l'époque, on avait un cardinal au Mans, à l'Académie française aussi, le cardinal Grant. Et tout jeune prêtre, il l'avait fait venir et lui avait dit, vous serez professeur de mathématiques. Et il lui a répondu, je suis nul en maths et je ne connais rien et j'ai été formé en études littéraires. Ce n'est pas grave, vous serez professeur de mathématiques. Et il est devenu professeur de mathématiques. Voilà. Donc n'attendez pas de moi des grandes expériences de sportif, même si j'en ai entendu beaucoup. Je ne suis pas un très grand sportif. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait de sport, hein. Voilà. Donc on va rentrer un peu dans le corps des affaires. Vous voyez dans quel contexte je suis arrivé à traiter de cette question. Et donc, avec d'une part la formation générale que j'ai eue avant, en droit, en économie, en mathématiques, en philo, etc., d'une part, et puis d'autre part la formation de bibliste, quand on a constitué ce document Église et Sport, en fait, l'idée c'était de dire cette première coordination de gens qui s'est mise en place, c'est important qu'elle apprenne à travailler ensemble. Et les évêques, je leur avais suggéré, nous ont demandé de faire un état de la question. Un état de la question, Église et sport. Cet état de la question, au fond, s'articule sur trois aspects. Le premier, ça consiste à dire, c'est quoi ce phénomène des sports qui s'est énormément développé à partir de la fin du 19e siècle et qui a envahi toute la société, comment l'Église s'est située en face. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau en soi, puisque c'est des choses qui existent depuis longtemps. En même temps, vous voyez bien qu'il y a un tas de dimensions économiques, politiques, organisationnelles autour du sport. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, on a fait un premier état de la question, c'est la première partie de ce document. Aussi, quels étaient les rapports de l'Église au milieu de tout ça. Il y a une deuxième partie qui est une partie de réflexion où on prend du recul, je vous en parlerai un petit peu. Et une troisième partie où c'est des expériences partagées, en fait, parce qu'il se passe énormément de choses. Et il y a énormément de chrétiens impliqués dans le sport. Voilà, pour tracer à grands traits les choses. Dans ce groupe de travail, en fait, il y a des gens qui arrivent d'horizons institutionnels, à savoir qu'il y a la Fédération sportive et culturelle de France, qui est une fédération qui existe depuis longtemps déjà, et qui coordonnait beaucoup de choses au niveau du sport, entre autres, par rapport à l'Église. Entre autres, c'est le rapport avec les patronages, mais pas seulement. C'est une histoire un peu mouvementée entre l'Église et puis les patronages, etc. C'est toute une histoire un peu complexe. Voilà, il y a le sport à l'intérieur de l'enseignement catholique qui s'appelle Luxel. Tout ça, ça fait beaucoup de monde, hein, voilà. Mais il y a plein, plein d'autres choses qui existent. Il y a deux écoles de professeurs de sport de l'enseignement catholique, une rattachée à la Catho de Paris qui s'appelle l'ILEPS et une autre qui est rattachée à l'Institut catholique de l'Ouest à Angers, donc qui s'appelle l'IFEPSA. Plus tout un tas de choses que je vous épargne. C'est juste pour mettre le contexte. On a mis tous ces acteurs-là autour de la table pour travailler ensemble. Et donc, on a produit ce document épiscopat. Et donc, on va rentrer un peu dedans. C'est un peu difficile c'est une histoire extrêmement longue. Il s'est passé beaucoup de choses. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que quand on utilise la notion de sport, et qu'on va la faire réagir avec l'histoire, il y a un peu un côté anachronique, à savoir que le mot sport, c'est un mot qui est né du vieux français, en fait, d'un mot qui est déport, hein, comme vous avez le transport, ben, il y avait le déport. En linguistique, on sait souvent que la racine de se transforme facilement en s. Donc, passer par l'Angleterre, c'est devenu le sport et ça nous est revenu sous le mot sport. Le mot déport, qui vient donc en fait du latin, c'est un mot qui avait pris une connotation donc au Moyen Âge, au moment où naît le français, une connotation un peu ludique, on va dire ça comme ça. En fait, c'était pas très loin de l'idée d'amusement, de transport amoureux et même de transport amoureux. Un peu folklore. Voilà, donc ce terme a pris un sens qui est plus familier pour nous maintenant, en passant par l'Angleterre, en particulier à partir du XVIIIe siècle, en gros, hein, se sont développés dans le monde de l'aristocratie anglaise et de la bourgeoisie anglaise, ce qu'on a appelé donc les sports. Ça faisait partie de la formation des jeunes, hein, de l'élite en fait. Hein. Et puis vers la fin du 19e siècle, des règles se sont mises en place dans pas mal de ces sports progressivement. Et il y a une espèce de démocratisation du sport qui s'opère progressivement. Et puis une universalisation, c'est que ça passe dans énormément de pays, énormément de civilisations. Cela dit, l'idée même de sport, c'est évidemment quelque chose, un phénomène qui existe depuis toujours, hein. On a des sources importantes, par exemple, dans le monde égyptien. Il y a deux énormes tomes de travail des Allemands avec des photos, mais pas seulement, un travail colossal des Allemands sur le sport en Égypte. Rien que ça dit que il s'est passé énormément de choses. Mais on pourrait pas reprendre le monde étrusque, on pourrait prendre énormément de monde comme ça. Mais peut-être ce qui est important pour nous, c'est que Nous avons été marqués beaucoup par la civilisation gréco-romaine et c'est surtout à travers le monde grec que la question s'est posée. Avec tout un tas d'installations, comme vous savez, vous avez entendu parler des gymnases, des hippodromes, des palestres, des stades, etc. Et donc il y a toute la notion d'athlète, la notion de ce qu'on traduit par jeu ou combat ou concours, qui est le mot agone en grec, hein. Donc les Jeux olympiques, les concours olympiques, on peut dire ça, les combats, enfin tout ça c'est la même racine. Bref, c'est tout un monde auquel on a été confronté et où s'est confrontée la Bible. Alors le monde de la Bible s'est confronté dans un premier temps, ça a été plutôt un gros choc, on va dire ça comme ça. Ça a été un très gros choc culturel à l'époque des Maccabées. Donc on est au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Vous savez que le monde de la Bible, les gens du pays de Jésus ont été presque toujours dominés par des puissances étrangères dans leur histoire, que ce soit les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains. Donc ils ont eu une petite phase, disons, vers le milieu du deuxième siècle jusqu'au milieu du premier siècle, où ils ont eu une certaine autonomie. Et tout ça, c'est parti d'une révolte qui s'appelle la révolte des Maccabées. C'est le surnom donné à Judas, un des enfants de la famille, et qui a donné le nom finalement à la famille. Donc cette révolte des Maccabées a été un moment important. Et où est le choc culturel? Le choc culturel, c'est qu'il y a une confrontation entre le monde grec et le monde juif. Donc le monde grec, en fait, vous savez qu'Alexandre le Grand a conquis un empire absolument immense. Donc à sa mort, ses descendants ayant été supprimés, ce sont ses généraux qui ont pris la suite. On les appelait les Diadoques. Petit à petit, ils se sont fait des sous-royaumes, on va dire ça comme ça. Donc un royaume a été fait autour de l'Égypte, avec la famille des Ptolémées, qu'on appelle aussi les Lagides, descendants de Lagos, et avec une ville importante qui, au temps des empereurs romains, était la deuxième ville de l'Empire, qui s'appelle Alexandrie, donc fondée par Alexandre. Là, vous avez tout un monde qui est en fait en Égypte, mais qui est dans le nord de l'Égypte, près de la Méditerranée, un monde qui est devenu de culture tout à fait grecque. Voilà. Et puis, vous avez d'autres royaumes, donc les Attalides, les Séleucides. Alors ça nous intéresse parce que c'est ceux qui sont plutôt du côté de la Syrie, voilà, de la Mésopotamie, tout ça. Et entre les Lagides du côté égyptien et les Séleucides du côté de la Syrie, Palestine. Pour faire bref, en gros, Turquie, tout Mésopotamie, il y a eu des luttes importantes, et le pays de Jésus, ils se sont trouvés pris un peu entre les deux puissances. Donc, à un moment, les Maccabées, cette famille-là, réussit à prendre le pouvoir. Le contexte est le suivant. Un certain nombre de Juifs de Jérusalem, et pas seulement de Jérusalem, commence à adopter les coutumes grecques. Hein, les Séleucides, tout ça, c'est les Lagides, c'est des gens de culture grecque et de langue grecque. Donc, ils commencent à adopter les mœurs grecques et le vieux monde juif va résister à ce moment-là. Et en fait, le premier clash, il est au moment où on construit un gymnase à Jérusalem. Donc là, on est typiquement avec des choses qui viennent du monde grec et ça va susciter la révolte des Maccabées. Alors, gymnase, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu où on pratique du sport et depuis longtemps dans l'Antiquité, il y a des débats pour savoir depuis quand il était pratiqué nu. Pour le mot, l'adjectif grec pour dire nu, ça se dit gymnos. Vous voyez bien que ça a donné gymnase. Alors là, il y a un peu des débats autour de cette question. Quand j'étais à Jérusalem, puisque j'y ai passé un an, j'ai beaucoup travaillé l'archéologie, y compris sur place. On a beaucoup de difficultés à situer ce gymnase. Et en fait, ce n'était pas seulement un gymnase. C'était un ensemble plus important dans lequel il y a aussi une éphébie et il y a aussi la palestre. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces affaires-là? Donc, l'éphébie, c'est une institution qui consiste à faire grandir et à éduquer des jeunes qui sont plutôt dans la tranche 12-16 ans et ils s'entraînent à la palestre. Ça vient du mot palais en grec qui veut dire la lutte. Donc, en fait, ils ont une formation qui est à la fois intellectuelle et une formation qui est aussi sportive. L'idée, c'est d'en faire des citoyens. Et l'idée, c'est d'en faire des citoyens qui sont aptes éventuellement aussi à défendre la cité. Donc vous voyez qu'il va y avoir autour des questions de sport des connexions avec le monde de la défense, avec le monde des soldats, le monde militaire. Il va y avoir des connexions avec le monde de l'éducation, hein, avec d'autres mondes encore sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, mais entre autres le monde de l'art. Alors, le gymnase, l'éphébie, la palestre. Ça, c'est implanté à Jérusalem. On trouve les références, si vous voulez les avoir, vous les trouverez dans le premier livre des Maccabées dans la Bible, au chapitre 1, verset 10, et dans les versets qui suivent. Voilà. Il y a un petit côté un peu rigolo, je peux vous en lire un petit passage. Alors, quelques-uns des Juifs parmi le peuple s'empressèrent d'aller auprès du roi qui leur donna la faculté d'observer les prescriptions des nations. Donc, vous voyez, c'est les choses non juives, hein, les coutumes non juives. Ils construisirent alors un gymnase à Jérusalem selon l'usage des nations. Vous savez que le monde juif aime bien parler en disant il y a les juifs et il y a les pas juifs. Les nations, c'est les pas juifs en fait, hein. Et ils se firent des prépuces. Se soustrayèrent à l'alliance sainte et se mirent sous le joug des nations et se vendirent pour faire le mal. Donc vous voyez, pour aller nu au gymnase à Jérusalem, un certain nombre de Juifs vont participer et ils veulent cacher le fait qu'ils sont Juifs, donc ils se font faire des faux prépuces. Voilà. C'est pas moi qui invente, hein, c'est la Bible. Voilà. Dans le deuxième livre des Maccabées, l'affaire est un peu plus détaillée. Donc, au partir du chapitre 4, verset 7, entre autres, c'est là qu'on vous explique les affaires de gymnase, d'éphébie, de palestre. Hein. Ça se continue d'ailleurs avec un phénomène, une petite affaire qui se passe, c'est juste dans la suite du texte, avec des jeux quadriennaux qui se passent à Tyr. Donc, c'est au nord du pays de Jésus. Hein. C'est des jeux assez célèbres, hein, dont dédiés au dieu Melkart, hein, qui est un dieu phénicien, un peu un équivalent de Jupiter. Melek, ça veut dire le roi. Kart, en phénicien, c'est la ville. Donc, ça veut dire le roi de la ville. Mais Kart, vous le connaissez parce que c'est aussi dans le mot. Ville nouvelle qui se dit Carthage, hein, qui est une fondation, Carthage, qui est une fondation de Tyr. Voilà. Alors, dans le texte du deuxième livre des Maccabées, on voit que les prêtres délaissent le culte du temple et quand il y a le coup de gong qui signale la distribution de l'huile, parce qu'on utilise de l'huile pour se masser et être à la fois plus fort et plus souple. Avant de commencer les exercices sportifs, eh bien, les prêtres de Jérusalem, apparemment, un certain nombre quittent le culte du temple pour foncer à la distribution gratuite d'huile. Il y a tout un débat d'ailleurs pour savoir si c'est une huile qui est entre guillemets cachère ou pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait aller chercher chez Flavius Joseph. Je vous les épargne, mais c'est simplement pour dire que, en fait, il y a aussi un enjeu derrière, c'est que tout ce sport et ces jeux était sous l'égide de certains dieux. Les dieux principaux de ce côté-là étant Jupiter. Voilà, et puis Hercule ou Héraclès, hein, comme vous voudrez, mais pas seulement. Donc vous voyez que là, derrière, ça veut dire qu'il y a un enjeu aussi autour du rapport au Dieu, quoi. Est-ce que c'est le Dieu de la Bible qu'on suit, ou alors en participant à toutes ces affaires-là, de ce qu'on nous on appelle sport, est-ce que ça veut dire qu'on entérine une espèce de respect pour les dieux grecs, voilà. Donc, vous avez encore un autre passage qui est dans le quatrième livre des Maccabées. Donc, vous ne le trouverez pas dans toutes les Bibles, puisque le troisième et le quatrième livre des Maccabées ne font pas partie de la liste du canon des Écritures pour les catholiques. Mais pour un certain nombre d'orthodoxes, oui, ça en fait partie, et même dans certains vieux codex utilisés par le monde catholique ou orthodoxe, on les trouve aussi. Donc, dans ce quatrième livre des Maccabées, il est encore question de gymnase. Et puis, si vous voulez encore d'autres références, vous les trouverez chez l'historien Flavius Josèphe dans les Antiquités judaïques, dans le 12e livre à partir du paragraphe 5. Donc, cette affaire du gymnase de Jérusalem a quand même fait pas mal de vagues. Il y a beaucoup de débats pour savoir s'il a duré longtemps ou pas, sans doute pas très longtemps. Et il y a beaucoup de débats pour savoir qu'est-ce qui faisait problème. Est-ce que ce qui faisait problème, c'est d'abord cette histoire de rapport au Dieu? Probablement que oui. Est-ce que c'était le rapport à la nudité? Là, c'est beaucoup plus discuté. Il semblerait que non, mais tout ça est en pleine recherche. Les chercheurs sont en plein travail sur ces questions-là. Quant à la localisation de ce gymnase à Jérusalem, c'est l'enjeu de beaucoup de débats. Il était au pied de l'Acra, qui était l'acropole de l'époque, sauf qu'on a un peu de mal à le localiser. Et donc, c'est pas tout à fait simple. Voilà, c'était peut-être à l'ouest de ce qu'on appelle aujourd'hui l'esplanade du Temple, peut-être dans la vallée du Tyropéon, mais tout ça est plein de questions. J'ai beaucoup travaillé avec les archéologues, on est encore avec beaucoup, beaucoup de questions. Il faut dire que ce monde du sport qui vient du monde grec, alors j'utilise le mot sport de façon totalement anachronique, mais c'est tellement commun, on va continuer à parler comme ça, hein. Ce monde du sport, évidemment, s'est développé beaucoup en dehors de Jérusalem, hein. On trouve des hippodromes, des stades, des palestres, etc., un peu partout dans le pays de Jésus, au fur et à mesure que le temps avance, quoi. Bon. Et il y en a un qui va particulièrement développer tout ça, c'est Hérode. Et il va le faire. Alors, j'ai vu qu'un certain nombre de gens écrivaient qu'il l'avait fait à Jérusalem. Il n'y a aucune trace de ça, hein. J'en ai pas trouvé, hein. Et en tout cas, archéologiquement, il n'y en a pas du tout, pour le moment, hein. Par contre, oui, ça s'est développé énormément dans la grande ville qu'il a créée sur le bord de la Méditerranée, qui s'appelle Césarée, hein. Césarée maritime. Si vous allez dans le pays de Jésus, vous verrez, il y a des fouilles énormes. C'était une ville extrêmement importante. Et là, on trouve pas mal d'installations, effectivement. Mais pas seulement, hein. Quand on regarde la guerre des Juifs, il y avait un hippodrome qu'on n'a pas retrouvé, mais qui doit être entre Tibériade et Magdala, etc., etc. Donc, en fait, tout ça, c'est quand même diffusé progressivement au 1er siècle avant Jésus, 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle après Jésus. Tout ça se développe, hein. Ça se développe un peu partout, lié à la culture grecque, et puis avec des transformations qui vont être avec la culture romaine. Donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus là-dessus. Je voudrais simplement pointer un petit passage qui est rarement mentionné et qui se trouve dans le livre de la Sagesse, dans le livre de la Sagesse au chapitre 4. Donc, le livre de la Sagesse a été probablement écrit une cinquantaine d'années avant Jésus, hein, grosso modo, et probablement du côté d'Alexandrie, en monde grec. Et donc là, dans ce livre de la sagesse, il y a dans ce passage beaucoup de références à du vocabulaire sportif grec, hein. C'est très, très, très clair. Je ne vais pas le dire, ça prendrait du temps, mais simplement, il y a un changement de perspective. La perspective, n'oubliez pas que au 1er siècle après Jésus, à peu près 2/5 de la ville d'Alexandrie était du monde juif. C'est-à-dire qu'il y avait probablement plus de monde à Alexandrie, du monde juif, que à Jérusalem. Voilà. Donc l'influence de ce monde-là était importante. C'est là aussi qu'il y a la très très vieille traduction en grec de l'Ancien Testament, qui s'est faite, alors c'est difficile à dater, mais entre 250 et 100 avant Jésus, quelque chose comme ça. Voilà, probablement progressivement. Donc c'est la traduction qu'on appelle celle des Septante, puisque c'est 70 savants qui se seraient réunis en étant séparés et auraient traduit de chacun de chaque côté et seraient tombés pile sur la même traduction. Donc il y a toute une légende autour de tout ça. Néanmoins, c'est des très très vieilles traductions qui sont tout à fait passionnantes. Il y en a eu d'autres après, hein. En grec, celle de Théodotion, de Symmaque, d'Aquila. Mais là, c'est la traduction des Septante est la plus vieille, de sorte que ils avaient quelques livres en plus que les Juifs de Jérusalem, et dans les quelques livres qu'ils avaient en plus, il y a ce livre de la sagesse. Alors, dans le monde de l'éducation grecque, il y a une importance accordée au sport, qui est assez grande, qui varie selon les différentes cités grecques et selon les époques. Et donc là, il faut lire des ouvrages très spécialisés. Un des plus vieux ouvrages est l'ouvrage d'Henri-Irénée Maroux, hein, sur l'éducation dans l'Antiquité, qui est un livre tout à fait fabuleux, alors qui est un peu dépassé par certains côtés parce qu'il a été écrit il y a longtemps, mais qui reste un ouvrage majeur. Et on voit bien que dans le monde de Sparte, dans le monde d'Athènes, etc., il y a des évolutions sur le rapport à ce que nous appelons le sport. En tout cas, ça faisait partie de l'éducation. Et vous savez que le mot gymnase est par exemple passé en allemand pour dire les lycées, hein, parce qu'au gymnasium, comme on dit en allemand, hein, au gymnase, c'est là qu'il y a une éducation, pas seulement du côté du sport, hein, mais aussi de philosophie, de pas mal de choses de la vie qui sont pas seulement sportives. Et vous savez que un gymnase célèbre était près du temple d'Apollon Lycos à Athènes. Et en France, on a repris le nom de ce gymnase qui s'appuie sur ce lieu-là, et ça a donné le lycée. Donc l'équivalent du gymnasium allemand, c'est le lycée. Et donc vous voyez qu'il y a tout le monde de l'éducation qui est impliqué là-dedans. Et c'est pas seulement le sport. La perspective de l'éducation du monde grec, c'est d'arriver à l'excellence. Voilà. Ça, ce qui compte, c'est d'arriver à l'excellence. Alors, en gros, c'est la racine, le mot, c'est une très vieille racine indo-européenne qui est faite sur RD ou RT, comme vous voulez. Ça a donné des mots aussi divers que ordre, rite, vertu, etc., hein. C'est toute une famille de mots qui sont presque la seule famille de mots qu'on ait trouvée commune aux langues indo-européennes pour la structuration des sociétés. On ne trouve pas d'autre vocabulaire commun que celui-là. C'est un truc assez important. Alors, dans le monde grec, voilà, ce qu'on vit, c'est l'excellence. Et le texte de la sagesse reprend à peu près tout le vocabulaire, hein, sportif, mais en disant la visée, c'est la piété. Vous voyez? Donc, c'est une relecture un peu croyante du monde juif d'Alexandrie, hein, avec l'idée que le but de l'éducation, ce n'est pas d'abord l'excellence, mais c'est d'abord la piété, donc le rapport à Dieu. Voilà. C'est pour ça que je considère que ce texte du livre de la sagesse est assez important, surtout que saint Paul le connaît très 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 bien, ce vocabulaire, ce livre de la sagesse. Il y fait allusion, et pas qu'allusion, dans pas mal de ses lettres. Voilà. Je vais me donner. On a encore combien de temps, Michel?
Oh, il y a 20 minutes.
Bon, j'ai encore un peu de marge. OK. Donc, on a situé déjà un peu les choses. Le danger, ce serait de plaquer nos catégories du 21e siècle hein, et le vocabulaire du sport du 21e siècle sur ces mondes-là. Mais en même temps, il est bien évident que les réalités hein, physiques des humains, évidemment qu'elles sont communes. Hein. Alors, tant pis si on fait quelques anachronismes hein, en parlant de sport pour l'Antiquité, mais c'est quand même commode. Je voudrais vous donner, avant de plonger dans la suite de la Bible, des réactions des premiers chrétiens. Donc, les premiers chrétiens, en fait, contrairement à ce que je lis dans beaucoup d'endroits, n'ont pas eu des réactions unanimes, parce que eux-mêmes sont divers et appartiennent à des cultures diverses. Et donc, je vais prendre simplement deux exemples pour que vous vous rendiez compte ce qu'ils ont comme réaction par rapport au sport, à la fois des réactions communes et des réactions diverses. Donc, je prends deux pères de l'Église qui sont à peu près de la même époque, fin du deuxième siècle, début du troisième, et qui sont l'un comme l'autre très célèbres, un qui s'appelle Clément d'Alexandrie et l'autre qui s'appelle Tertullien. Je vais vous lire ce que dit Clément d'Alexandrie dans un ouvrage très célèbre qui s'appelle Le Pédagogue. Le Pédagogue étant Jésus. Donc, paideia en grec, c'est l'éducation. Pais, c'est l'enfant. Donc, agogé, c'est conduire. Donc, la pédagogie, ça consiste à conduire l'enfant, à le faire grandir, en fait. Hein, c'est un peu ça l'idée. Et Clément d'Alexandrie dit, bah, qui c'est qui fait grandir les enfants, les humains? C'est Jésus, voilà. Qu'il va appeler facilement le Logos, le Logos, la parole de Dieu, la raison en même temps, enfin voilà. Et donc, voilà ce que dit Clément d'Alexandrie. On peut autoriser les exercices physiques. Les exercices physiques, en grec, ça se dit gymnasia. Hein, les gymnasies, si je pouvais créer ce mot en français, hein, les exercices physiques. On peut autoriser les exercices physiques à ceux qui vivent selon le Logos, donc selon Jésus. Hein. Donc on peut le faire dans l'esprit des évangiles. Je continue de citer. Le gymnase suffit aux adolescents. Les exercices sont un moyen de prendre soin du bon état du corps et de l'âme. Si cela se produit sans les détourner des activités supérieures, c'est un résultat agréable et utile. Alors, les activités supérieures, ça va être ce qui va concerner la sagesse et l'amour de la sagesse, donc tout le champ immense de la philosophie, etc. Il continue. Pour les femmes, sauf la lutte et la course, l'exercice est permis. Surtout la tenue de la maison. Donc, vous voyez, pour eux, les exercices physiques, c'est aussi de tenir la maison, faire le jardin. Tout ça, c'est exercice physique. Hein. Tout ça, c'est gymnasia. Hein. Donc, pour les femmes aussi, c'est possible. Alors, pour la lutte et la course, qu'il faut éviter pour les femmes. On y reviendra. Peut-être que je peux déjà vous dire tout de suite, pour la course, par exemple, quand on a créé le marathon hein, à la fin du 19e siècle, hein, il a été interdit aux femmes de faire des marathons pendant très, très longtemps. Hein. Il a fallu attendre plus de 70 ans pour que. Et encore, les femmes se soient inscrites. Il y en a une qui s'est fait inscrire avec ses deux initiales, de sorte que personne ne savait que c'était une femme. Elle a été disqualifiée. Enfin, ça a été extrêmement compliqué pour les femmes de pouvoir accéder au marathon. On est au XXe siècle, hein. On est après 1950, hein, où c'est toujours difficile. Donc, on peut relativiser notre lecture par rapport à Clément d'Alexandrie autour de la place des femmes. Je vous signale quand même que il a existé des épreuves de Jeux Olympiques pour les femmes. Ça a existé. Alors, les hommes. Donc, je continue toujours Clément d'Alexandrie. Ils peuvent s'exercer nus à la lutte ou jouer à la balle, de préférence au soleil, marcher, piocher, puiser de l'eau, fendre le bois, lire à haute voix, pêcher. Donc tout ça, c'est gymnasie. Tout ça, ça fait partie des exercices physiques, y compris de lire à haute voix, parce qu'on lisait à haute voix dans l'Antiquité, et y compris d'aller à la pêche. Bon, on continue. La lutte est utile pour répandre une sueur virile selon les humeurs. Sinon, les humeurs se portent vers les parties génitales. Donc vous voyez, l'idée, c'est que plus les hommes vont faire de sport, moins ils vont déraper au niveau sexuel. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Des choses qu'on n'imagine pas trop, hein, mais ça correspond à leur conception de l'époque. Une phrase aussi qui est très intéressante, il faut éviter mollesse et tension immodérée. Autrement dit, faites au moins un minimum de sport, n'en faites pas forcément un maximum, parce que ça peut déraper aussi dans ce sens-là. Sont valorisées la pudeur et la virilité, donc vous êtes dans la pudeur, y compris en étant nu, hein, et la virilité, et à cette époque-là, la virilité, ça veut dire cheveux courts, ne pas s'épiler, porter la barbe, développer sa musculature et pas passer tout son temps chez les parfumeurs. Ça vous donne une petite idée. Voilà. Et on continue. On peut se rendre le service de se frictionner d'huile. Donc imaginez, je sais pas, deux évêques d'aujourd'hui qui vont faire du sport en étant nus tous les deux et qui se frictionnent d'huile. Tout à fait normal pour Clément d'Alexandrie. Donc c'est pour ça que je vous dis que il faut resituer dans le contexte de chaque culture, quoi. Là, on est dans une culture qui est celle d'Alexandrie, hein, de ce monde grec. Et on continue. Mais le pédagogue, c'est-à-dire Jésus, ne nous conduira pas au spectacle. Stade et théâtre sont des chairs de chairs, chaires de pestilence. Et des occasions de convoitise érotique. Alors ça, c'est la chose qu'on va avoir en commun avec tous les chrétiens, c'est autour de la notion de spectacle. Non pas que les lieux de spectacle soient en soi condamnables, d'ailleurs Tertullien le dit clairement, mais c'est ce qui s'y passe. Donc là, va y avoir un blocage des chrétiens, clairement. Alors qu'est-ce qu'il raconte, lui, Tertullien? Alors, pour les jeux, donc Tertullien, on est dans le monde latin. Dans le monde latin, d'Afrique du Nord. Hein. Tertullien était un très très grand avocat, il écrit un très très beau latin. En même temps, c'est un type assez redoutable, hein. C'est un argumenteur de première. Alors, Tertullien a écrit pour les Jeux séculaires de l'empereur Septime Sévère, c'est-à-dire en juin 204, un livre qui s'appelle un De spectaculis, donc à propos des spectacles. Hein. Alors, la notion de spectacle, c'est l'idée d'à la fois de voir et d'être vu, hein. Vous trouvez ça à travers le mot théâtre, hein, voilà. Je ne vais pas entrer dans le détail de toutes les origines, mais voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Tertullien prône l'obligation de renoncer au spectacle fondé sur notre baptême. Parce que tout l'appareil des spectacles est fondé sur l'idolâtrie, jeux sacrés ou funèbres. Cirque, théâtre, amphithéâtre, tout ça, ce ne sont pas des lieux par eux-mêmes qui souillent notre âme, c'est ce qui s'y passe. Et s'y passe quoi? Fureur, impudicité, insolence, inhumanité. Tout ça, c'est des assemblées d'impies, dit Tertullien en citant le psaume 1. Et surtout, il dénonce cette science qui travaille à nous donner un corps nouveau comme pour réformer l'œuvre de Dieu. Il dénonce la lutte comme une invention du démon, les courses comme insensées, les sauts comme extravagants. Pourquoi rechercher les plaisirs pour mériter des couronnes, dit-il. Alors, la réflexion de Tertullien est intéressante, hein. Cette science qui travaille à nous donner un corps nouveau pour réformer l'œuvre de Dieu. Quand on travaille sur la question du sport, on travaille aussi sur la question de l'homme augmenté. Le travail que nous avons fait à la conférence des évêques de France sur le numérique nous a amené à traiter de toutes ces questions-là. Par exemple, la question du solde a augmenté, qui est posée en France depuis 2019 de façon très claire, mais on pourrait multiplier les exemples. La question se pose aussi dans le monde du sport. Voilà. Ce que soulève Tertullien est une vraie question. Donc, vous voyez que du côté de Tertullien, en fait, d'abord, il est de culture latine, et là, ça diffère sérieusement. Les Latins aimaient pas facilement se mettre nus comme ça, comme le faisaient les Grecs. D'ailleurs, ça choquait plutôt les Latins. Tout ça fait que nous avons affaire à deux cultures différentes. Hein. Mais où ils se rejoignent, c'est sur l'affaire des spectacles. Parce que quand vous avez des combats de gladiateurs, quand vous avez bon, un certain nombre de choses comme ça, pour les chrétiens, ça ne passe pas, quoi. Voilà. Je vais revenir sur la Bible tout à l'heure, hein, sur le Nouveau Testament tout à l'heure. Donc, voilà ce qui se passe un peu avec les pères de l'Église. Ça vous donne deux aperçus. Il n'y a pas une réaction unanime, mais il y a des points communs dans des cultures différentes. Et puis, on assiste au 4e siècle à une grosse cassure. La cassure, c'est que ça va être tout doucement la fin, du paganisme et on va arriver, à la destruction, de beaucoup d'Olympie, des hippodromes, de beaucoup de choses de ce genre-là, parce que c'est aussi l'interdiction de culte païen. Or, tous les Jeux olympiques néméens, ismiques, enfin tous les Jeux, il y en a énormément, sont sous l'égide de certains dieux. Et donc, là, à un moment, les chrétiens vont se démarquer de ça complètement. C'est pas avec Constantin, hein, qui est le premier empereur à devenir chrétien, mais c'est plutôt à la fin du même siècle, vers la fin du 4e siècle, à l'époque plutôt de Théodose, hein. Alors ici, il est vrai qu'il y a eu un gros massacre à l'hippodrome de Thessalonique qui a été très célèbre. Ambroise de Milan fait fermer les portes de la cathédrale devant l'empereur, en exigeant qu'ils se convertissent. Enfin, bon, c'est des épisodes extrêmement célèbres. Mais bon, tout ça va déboucher sur le fait que tout culte païen est proscrit en 392, sauf le judaïsme qui est toléré. En 393 sont célébrés les 293e et derniers Jeux olympiques. En 394, les fêtes païennes sont interdites. En 395, Olympie est pillée par les Goths et incendiée sous l'ordre de Théodose II en 426. Et finalement, elle est détruite par les tremblements de terre ou les tsunamis en 522 et 551. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce monde sportif grec est presque complètement disparu. Alors, pas complètement, mais presque. Voilà. Ça ne veut pas dire que les gens ne font pas de sport, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Mais on n'est plus dans ce cadre-là. Et puis, je vous disais, avec le monde anglo-saxon, à partir du oui, 17e, 18e siècle, là, les choses grimpent, mais le sport apparaît pour le coup, hein. Mais c'est déjà commencé avec la Renaissance, hein, avec Mercurialis ou Montaigne. Vous connaissez bien cette phrase de Montaigne qui est assez célèbre. Ce n'est pas assez de lui roidir l'âme, il faut aussi roidir les muscles, dit-il. Hein? Donc, il y a toute une sensibilisation à nouveau à une éducation très très large, y compris sportive. Voilà. Et on en arrive à l'émergence du sport dans le monde moderne. L'Église y a pris sa part. Donc, cette émergence, c'est que on va fouiller Olympique à Olympie à la fin du XVIIIe siècle. On va inventer entre 1796 et 1798 des Olympiades de la République. Au 19e siècle, il y a toute une recherche qui a été faite par Antoine Compagnon, professeur au Collège de France très célèbre, autour du terme athlète, qui montre que ce terme a eu un succès considérable. En 1832, sont inventés des jeux au petit séminaire du Rondeau, donc dans le monde catholique. On est en 1832, suivi en 1834 par des jeux scandinaves. suivi en 1850 par les Jeux de Münchwenlock. En 1858, un chercheur qui s'appelle Ménoïdès Ménas publie le Peregymnastikes de Philostrate qui vient d'être découvert au mont Athos. Donc, un livre autour du sport dans l'Antiquité, hein, qu'on se met à publier. Et ce même traducteur, hein, va suggérer une renaissance des Jeux Olympiques, des Jeux. Un mécène grec va financer une première relance des Jeux, ça va s'appeler les Jeux de Zappas en 1859 et 1870, Zappas étant le mécène. Et puis en 1892, Pierre de Coubertin appelle au rétablissement des Jeux olympiques à la Sorbonne. Donc vous voyez, les choses prennent tournure. Il faut vous dire qu'un dominicain qui s'appelle le père Didon avait lancé dans une branche dominicaine consacrée plutôt à l'éducation des jeunes, dans un collège, la Renaissance de jeu aussi, hein. Et c'est lui qui a inventé cette formule qui est la devise des Jeux Olympiques, Citius Altius Fortius, plus vite, plus haut, plus fort. Donc ça vient des Dominicains vers la deuxième partie du 19e siècle. Or, le père Didon était très très ami avec Pierre de Coubertin. Voilà. Je vous signale que cette devise des Jeux Olympiques a été modifiée en 2021. On a ajouté un mot qui est communautaire. Alors je redis, Citius, Altius, Fortius, communautaire. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. L'idée de rajouter ensemble, c'était de dire, attention, il ne faut pas qu'on soit seulement dans un monde de l'hyper-compétition, hein, d'être toujours dans le plus vite, le plus haut, le plus fort. Le sport, ce n'est pas que la performance pour la performance. Voilà, disons ça comme ça. Et puis c'est pas un truc tout seul, d'où l'idée de mettre le communautaire ensemble. Donc même des gens qui font des sports non collectifs, individuels, en fait ils le pratiquent ensemble. Hein, quand on est aux Jeux Olympiques, on court avec d'autres coureurs. Donc il y a tout un côté aussi ensemble, et l'idée c'est de réussir ensemble. Bon, alors je vous ai donné un certain nombre d'éléments. On va retourner dans l'Antiquité un petit peu. Dans l'Antiquité, les premiers jeux, c'est une histoire un petit peu complexe. En fait, il y a plusieurs types de disciplines. C'est des jeux qui sont à la fois hippiques, donc il y a des courses de chevaux, des jeux gymniques, c'est-à-dire ce qu'on appellerait plus ou moins la gymnastique pour nous, hein, des jeux musicaux et des jeux poétiques. Donc tout ça se déroule autour des mêmes jeux. Donc il y a des jeux qui sont ouverts à tous les athlètes grecs. Tout ça se dit en grec pan. Donc on va appeler ça les jeux panathlétiques. Et ça va être les jeux olympiques, Olympe. Les jeux néméens, Panémée. Les jeux ismiques, du côté de Corinthe. Et il me manque, j'ai juste un petit trou de mémoire, les derniers, ça va me revenir. Bon. Donc, il faut qu'on ait conscience que selon les endroits, ça n'a pas forcément commencé avec ce que nous, on appelle le sport. Quelquefois, ça a commencé avec les jeux musicaux, hein. Mais petit à petit, les quatre dimensions, se sont développées autour des mêmes jeux. Donc, hippiques, gymniques, musicaux, poétiques. Dans les Jeux olympiques, même de l'époque moderne, à un moment, il y a eu des épreuves aussi artistiques comme ça, qui ont existé. Ça fait partie des choses qui pourraient s'envisager. Donc les dieux qui sont l'égide un peu de ces jeux, c'est principalement Zeus, Jupiter, Héraclès, Hercule, Apollon. Mais aussi pour les jeux ismiques, Corinthe, c'est Poséidon. Neptune. Voilà. Donc c'est un peu là que ça va coincer avec le monde juif et le monde chrétien, quoi. Nous, on n'a pas ces dieux-là, quoi. Voilà l'idée. Alors, dans le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui, beaucoup du vocabulaire vient du monde grec. Donc, je vous donne des exemples, hein. Si je prends les mots amphithéâtre, arène, athlète, le mot détente, le mot gymnase, le mot hippodrome, le mot cirque, jeu, concours, combat, lutte, pugiga, pugila, pancrace, marathon, palestre, stade, tout ça, c'est du vocabulaire grec. Et puis, vous avez le vocabulaire qui vient très aussi, hein, mais le vocabulaire aussi qui vient très olympique, mais le vocabulaire victoire aussi, hein, couronne, voilà. Et vous avez le vocabulaire qui vient du monde anglo-saxon, donc boxe, club, équipe, fair play, record, handicap, handisport, etc. Donc ces deux vagues de vocabulaire imprègnent quand même fortement le sport d'aujourd'hui, hein, c'est un peu nos deux sources principales.